partager quelques versets dans l'Écriture et pardonnez-moi quand même à l'avance, bien que je n'ai pas à vous demander pardon, on va lire beaucoup de textes bibliques. Ce n'est pas une offense, hein ? Non, mais vous allez fouiller dans votre Bible et en fait, la seule chose qui est intéressante pour vous, c'est que plus on lit dans la Bible, moins je parle à côté. Donc l'un dans l'autre, vous n'êtes pas perdant au change certainement. Et on va revenir sur un événement biblique. Des noces nous attendent au ciel. Et bientôt, il viendra nous chercher. Nous l'avons chanté. Et nous habiterons pour l'éternité avec lui dans les cieux. Il y a un événement tout à fait remarquable que l'on trouve dans la Bible. Et je voulais revenir sur ce passage. On va mettre en parallèle d'ailleurs volontairement deux textes. Le premier, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Il y a comme une forme d'écho, me semble-t-il, à ce que nous lirons ensuite dans l'Apocalypse au chapitre 19. Mais dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 8, c'est le mois de décembre, nous arrivons à Noël. Et la semaine dernière, nous avons parlé des cadeaux que Dieu nous a offerts et des cadeaux que nous pouvons lui offrir, l'or, l'encens, la myrrhe. Et puis aujourd'hui, je voulais revenir sur cette formidable célébration qui aura lieu dans le ciel. L'Église a été suscitée à dessein pour être l'épouse de Christ pour l'éternité. Et si vous faites partie de l'Église, c'est votre destinée, c'est votre destination. C'est à cela que nous sommes appelés. Mais pour arriver là, il a bien fallu que Jésus vienne au monde. Et on revient sur ce texte de l'Évangile de Luc au chapitre 2. Et verset 8, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. » Donc, ils ont été jusqu'à Bethléem et ils ont trouvé ainsi l'ange. Ils ont trouvé, pardon, l'étoile qui s'est arrêtée au-dessus de cet endroit-là. Et puis, ils ont vu l'enfant emmailloté et ils ont béni l'Éternel et ils ont raconté ce qui s'était passé. Maintenant, on va dans l'Apocalypse, au chapitre 19. Et donc, verset 1er. Apocalypse 19, verset 1er. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands !» Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Bientôt, d'une manière très soudaine, Jésus va revenir. On ne sait pas le jour, On ne sait pas quand. Si vous pensiez que vous aviez encore 20 ou 30 ans pour mener à bien vos affaires avant de mettre votre vie en règle avec Dieu, réfléchissez bien. Parce qu'on ne sait absolument pas quand est-ce que Jésus va revenir. Si ça se trouve, on ne va même pas participer à la fête des enfants tout à l'heure. Peut-être que ce sera juste après. Vous imaginez, vous préparez le repas du réveillon le 24 au soir, toute la journée vous travaillez, et à 20h, au moment de se mettre à table, c'est le retour du Seigneur. Vous n'allez même pas manger ce que vous avez préparé. Non, mais c'est aussi soudain que ça. On ne sait absolument pas le jour, l'heure. Parce que s'il fallait que ce soit le bon moment, encore un peu de temps, j'ai encore besoin d'un peu de temps, je n'ai pas encore fini, je voudrais profiter encore de cela, mais ça finirait jamais. Parce qu'avec 6 milliards d'habitants sur la Terre, chacun aurait sa demande, chacun aurait son souhait. Non, ça va arriver d'une manière tellement soudaine. Il y a plusieurs textes de l'Écriture qui nous expliquent cela. L'Église va être enlevée et, comme c'est écrit à l'écran, elle va être unie à Christ parce qu'elle est appelée à être son épouse. Mais regardez, cette soudaineté de l'événement devrait nous faire réfléchir. Je vous cite quelques versets, si vous voulez juste noter les références. Celui-ci est dans l'Évangile de Marc au chapitre 13 et au verset 32. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, il est dit ceci, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, parce que si Jésus revient maintenant, on ne meurt pas, on part. » Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Et puis enfin, dans la première épître aux Thessaloniciens, encore quelques détails, au chapitre 4. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble, avec eux, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Notre avenir est au ciel. Je parle à des chrétiens, je parle à des croyants. L'avenir du chrétien est au ciel, il n'est pas sur la terre. Notre avenir est là-haut, et si notre avenir est là-haut, notre avenir prend quand même des contours. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Déjà promise sur la terre, fiancée et épouse dans le ciel. Alors elle a été préparée, cette épouse, pour un règne qui sera éternel aux côtés de son époux qui est divin, c'est Jésus-Christ. Évidemment, quand on dit cela, on se demande un petit peu comment les choses vont s'organiser. Mais jamais vous dire que cette union avec Christ, c'est juste l'aboutissement d'un projet que Dieu a mené depuis le départ. Il y a eu la chute de l'homme, on va dire que ça a modifié les plans du point de vue humain, ça a modifié les plans de Dieu, mais Dieu a toujours voulu cela. Vous avez des textes dans l'Ancien Testament qui l'expliquent de façon très très précise, j'en ai noté quelques-uns. Pardon Myriam, le dépôt vente, je viens de retrouver le papier, excusez-moi une parenthèse, on a ramené pas mal de bouquins pour Noël, c'est un dépôt vente, allez faire un tour à la bibliothèque, il y a certainement beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser. Donc c'est un projet qui est divin, c'est un projet qui vient de Dieu. Dans le livre de l'Exode, écoutez ce qu'il est dit, c'est incroyable, ça remonte à des siècles en arrière. Il est dit ceci, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ésaïe va être un peu plus précis. Au chapitre 54, il dit ceci, au verset 5. « Car ton Créateur est ton époux et ton mari. Ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas. » Et puis, un dernier texte, c'est un petit peu le thème de ce livre prophétique d'Osée. Il est dit ceci. « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de ta bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne même plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde, je serai ton fiancé par fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, je t'exaucerai, dit l'Éternel. » Donc, voyez, cette notion d'épouse est une réalité. Alors, là où Israël a failli, l'Église a réussi, l'Église a triomphé. Évidemment, il faut se poser la question, qui est l'épouse ? Est-ce que c'est Israël ? Ou est-ce que c'est Christ ? Ou est-ce que c'est l'Église ? Qui est l'épouse de Jésus-Christ ? Alors, on a quelques textes dans l'Écriture qui peuvent nous éclairer à cela. Et je vous les cite, là encore, ne les cherchez pas. Écoutez tout simplement. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Souvent, on cite d'autres textes qui se trouvent dans les Éphésiens lorsqu'il y a une célébration de mariage, parce qu'il y a une concordance, un parallèle que l'apôtre Paul faisait par rapport aux devoirs conjugaux, un mari et son épouse, et puis Christ et l'Église. Et il est dit ceci dans Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 25. « Marie, aimez vos femmes, tout est au pluriel, hein, Marie aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Et puis dans l'Apocalypse, on l'a lu en introduction, « Heureux ceux qui ont part aux noces de l'agneau. » Donc, il y a beaucoup de textes dans l'Écriture qui nous ramènent à cette réalité qu'au ciel, nous retrouverons à la fois Israël et l'Église. Les deux seront là. Au départ, Dieu a déclaré à Israël « Tu es mon peuple, tu es à moi, je suis finalement ton époux. » Et cela va être dit, et Christ va le préciser en parlant de l'Église. Alors on ne dira pas que Israël c'est l'épouse de Dieu et Christ, et l'Église c'est l'épouse de Christ. Ce serait un peu tiré par les cheveux, on ne peut pas faire de détails comme cela, puisque Christ est Dieu de toute manière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils seront au ciel. L'Église sera au ciel, Israël sera au ciel, tous ceux qui ne veulent pas de Dieu n'y seront pas. Vous imaginez bien que ce n'est pas après l'avoir refusé pendant des dizaines d'années qu'ils vont devoir être au ciel par obligation pour l'éternité. Non, non. Il y a un autre endroit où ils passeront leur éternité, c'est triste, mais c'est l'enfer. Soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de rangée au milieu, il n'y a pas d'endroit intermédiaire. Soit c'est le ciel, soit c'est pas le ciel. Et au ciel, eh bien, on retrouvera l'Église et Israël. Écoutez ce qu'il est dit dans le livre de Daniel. C'est très intéressant ce qu'il est dit. D'ailleurs, ça fait écho quand même à ce qui va se passer et ce qui est dit dans l'Apocalypse. Le règne, c'est dans le livre de Daniel, hein, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, au peuple des croyants du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est quand même assez incroyable. Hein ? Ça fait penser à ce qu'on a lu dans l'Apocalypse. Hein ? Ils régneront au siècle des siècles avec le Fils de Dieu. Et puis, dans un peu plus loin, au chapitre 12, toujours dans le livre de Daniel, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, marche vers ta fin et tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Ça rappelle quand même curieusement ce qu'il est dit aussi dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on a lu au chapitre 19, mais si je vous lis au chapitre 21 ce qu'il est dit, au verset 12, chapitre 21 de l'Apocalypse, et verset 12, en parlant de la Nouvelle Jérusalem, elle avait une grande et haute muraille, là on est dans le ciel, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et puis un peu plus loin, il est dit au verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres également. Et on trouve également, non, je laisse cette référence, donc au ciel, vous avez compris qu'il y aura tous ceux qui ont cru. Alors, pour moi, ce n'est pas une question de position entre Israël, l'Église, qui va être positionné par rapport à Dieu, sous-entendu plus avantageuse, de manière plus avantageuse. Ce n'est pas une question de position quand on est dans le ciel, c'est une question de relation avec Dieu. Et quel que soit l'endroit où on se trouve au ciel, la Bible dit qu'on entre dans le contentement, on entre dans la plénitude. Donc, il est évident qu'il y a des places dans le ciel. Jésus dira, je m'en vais vous préparer une place là-haut. Qui dit place, dit bien un endroit. Si Jérémie, t'es assis là, t'es pas au fond. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui est à la place au fond, etc. Donc, mais on est tous au même endroit. Bien dans le ciel, ce sera pareil. L'important, ce n'est pas l'endroit où on se trouve. L'important, c'est d'y être. Et le plus important, ce sera notre relation avec Dieu. Il y a cette notion de total contentement. Donc, on ne va pas discuter sur le fait qui aura la préférence, la prééminence. Je crois que l'Église, c'est l'épouse et des noces nous sont préparées. Et là, on parle bien de l'Église dans ce schéma particulier des noces de l'agneau. Maintenant, une petite note, une petite particularité, je n'avais jamais remarqué, et c'est en étudiant un petit peu sur ce passage-là. Savez-vous quel est... je disais ça à quelqu'un hier. Il y a deux mots qui sont internationaux, connus de tout le monde dans le monde entier. Ils se prononcent quasiment de la même manière. Quels sont ces deux mots ? Coca-Cola et Alléluia. C'est pas vrai ? Partout dans le monde, c'est pareil. Alléluia. Je ne sais pas combien de fois on l'a prononcé ce matin. Et j'ai été très surpris. Savez-vous que le mot Alléluia, il ne se trouve que 4 fois dans le Nouveau Testament ? Et 4 fois dans ce chapitre 19. Nulle part ailleurs, vous trouvez le mot « Alléluia » dans le Nouveau Testament. Par contre, dans l'Ancien Testament, on le retrouve un petit peu. Pas beaucoup, hein. Essentiellement dans des psaumes. Essentiellement dans des psaumes, et notamment ces psaumes très particuliers de la montée des degrés, où on apportait une louange très particulière à Dieu. J'ai noté entre les psaumes 113 et 118 et 145 et 150. D'ailleurs, on appelle ces psaumes le grand Hallel, je le prononcerai mal, et le petit Hallel, du mot Alléluia, ce qui a donné le mot Alléluia. Et souvent, ces psaumes commencent avec ce mot et finissent avec ce mot. Alléluia, ça veut dire louer l'Éternel, louons l'Éternel. Quelque part, un commentateur, alors je lui laisse l'intégralité du propos, mais ce commentateur disait, on a tellement vulgarisé le mot Alléluia, on le dit tellement à tout bout de champ, qu'on réalise peut-être pas ce qu'on est en train de dire quand on dit Alléluia. Vous vous rendez compte qu'il n'a jamais été prononcé dans le Nouveau Testament sur la terre, c'est dans le ciel qu'on le dit. Souvenez-vous l'annonce de la venue de Jésus sur la terre. Il y a une chorale qui a chanté dans le ciel quand même. C'est pour ça que je vous disais que ça fait écho avec ce qu'on lit maintenant dans l'Apocalypse. Quand les bergers ont eu l'apparition de l'ange et que l'ange leur a annoncé la venue du Sauveur, ce n'était pas un événement anecdotique, ce n'était pas un événement un petit peu particulier. Ça devait bouleverser la terre entière. Et ça l'a fait. Ça l'a fait. Vous vous rendez compte, dans le ciel, on a chanté les louanges de l'Éternel. Alléluia, le salut est venu aux hommes, le salut est venu sur la terre, le salut est donné aux hommes à ce moment-là. Quelle nouvelle extraordinaire. Alléluia, retenez juste cela, c'est une parenthèse. Et la prochaine fois que vous prononcerez Alléluia, dites-vous que vous dites quelque chose d'exceptionnel. Plus c'est rare, plus c'est cher. Hein, plus c'est rare, plus c'est cher. C'est quelque chose d'exceptionnel que vous dites à ce moment-là. Alors dites-moi, les noces de l'agneau, mais vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel dans le ciel. Est-ce que vous réalisez ça? Peut-être que vous n'êtes pas trop penché sur la question. Vous dites pour l'instant, je suis sur mon réveillon. Il y a mieux, hein, il y a plus. Hein. On va regarder un peu plus loin quand même. Est-ce que vous imaginez à quoi pourront ressembler ces noces dans le ciel? Une noce, déjà, une noce, ben c'est agréable, une noce, c'est fabuleux, une noce, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui ont prévu de se marier se disent, oulala, pourvu qu'il fasse beau, il ne faut rien oublier, donc on a la tête chargée, on a plein de choses à l'esprit, etc. Évidemment, on veut que ce soit parfait, et ça reste un des événements les plus marquants, forcément. Imaginez donc l'Église unie à Christ dans le ciel. Ça fait des années que vous attendez ce moment-là, mais un jour, ça va se réaliser. Ça fait des années que vous marchez dans l'espérance d'être au ciel et de vivre pour l'éternité, de régner pour l'éternité avec Christ. Eh bien, ça arrive, ça arrive. Imaginez donc, vous allez vivre un des événements les plus incroyables qui ne se soit jamais déroulé, évidemment. Un événement unique, un événement glorieux. Alors, j'en reviens à cela, évidemment, parce qu'il faut quand même y penser. Qui est invité? Tout le monde, sans exception. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, il est dit au chapitre 14, ce sont des paraboles, c'est pour rappeler cet événement là aussi. Hein. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Et malheureusement, tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Tout le monde est invité, je ne sais pas pourquoi, c'est difficile à comprendre, mais beaucoup déclinent l'offre. Franchement dommage, hein. Décline l'offre. Oh, ce n'est pas le moment, ce que je vous disais tout à l'heure. Je n'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres choses à prévoir. Savez-vous qu'on ne prévoit pas ni deux choses dans la vie, ni le jour de notre arrivée sur la terre, ce n'est pas nous qui prévoyons, ni le jour de notre départ. On ne peut pas prévoir. C'est à moins que vous ayez des idées suicidaires, que Dieu vous en garde, mais ce n'est pas prévisible ça. Ce n'est absolument pas prévisible. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt. On voit bien dans ces textes, et plusieurs évangiles ramènent ce texte-là, beaucoup se sont excusés, mais je crois qu'il y a des décisions que l'on ne peut pas reporter. Et on ne pourra pas tricher d'ailleurs. Un autre évangile rapporte un petit peu la même scène et dit que quelqu'un est entré dans la salle des noces sans avoir revêtu l'habit de noces. Alors il faut une explication. À l'époque, quand les gens étaient invités à des noces, comme ils n'avaient pas tous les mêmes moyens, certains venaient comme ils étaient vêtus et certains n'avaient pas d'habit très présentable. Ils n'étaient pas très propres, pas très beaux sur eux-mêmes. Donc, avant de rentrer dans la salle du banquet, ils passaient au vestiaire. Et à tout le monde, on donnait le même vêtement. Ce qui fait que quand on était au banquet, il n'y avait plus de différence. C'était pour balayer les différences. Sauf que si vous voulez entrer dans la salle des noces, pas par la porte d'entrée, parce que vous n'avez pas votre carton d'invitation, vous l'avez refusé, vous l'avez jeté, vous n'en avez pas tenu rigueur, et sans le carton d'invitation, vous n'entrez pas au vestiaire et ni dans la salle des banquets. Donc si vous essayez d'y rentrer par un autre moyen, vous vous glissez sous la tente par un autre moyen, hop, vous rentrez. On va vite vous repérer, vous n'avez pas l'habit de noces. Et il nous est dit que le roi est entré dans la salle des banquets et il a vu quelqu'un qui faisait tâche. Il n'avait pas l'habit. Il a été vers lui et vous lirez le texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Il lui a dit, mais comment tu es rentré là, toi? Comment ça se fait que tu es là? Comment ça se fait que tu manges avec les autres? Et vous imaginez aux noces de l'agneau dans le ciel, quelqu'un qui n'a jamais voulu de Dieu et qui profiterait des noces? C'est impossible, parce qu'il va être repéré. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et certains diraient, oula, c'est un peu sévère quand même, le jugement. Mais croyez-moi, c'est comme ça que ça va se passer. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit d'être là. Chassez-le, mettez-le dehors, dans les ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Alors là, c'est plus le moment de négocier. Hein. C'est plus le moment de dire, je suis un habile négociateur, je vais vendre chèrement ma peau. Non, ça ne marchera pas. C'est impossible. Il faut avoir le bon habit. Certains voudraient tricher, ou d'autres voudraient peut-être essayer de maquiller la chose. Je vais vous donner un tuyau pour le bon habit. Vous l'avez dans Ésaïe, chapitre 61. Ésaïe dit ceci, écoutez bien. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Le plus beau des vêtements, c'est celui-là. Il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alors, soyez bénis et comprenez bien que le vêtement que le Seigneur vous donne lorsque vous avez fait la paix avec Dieu, le vêtement que vous portez depuis votre conversion, depuis votre engagement dans les eaux du baptême, c'est un vêtement qu'il faut préserver de toute souillure. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 18, il est dit ceci, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et au chapitre 7 et au verset 14, mon Seigneur, je voyais une foule nombreuse qui était là, dans le ciel, et je posais la question, d'où sont-ils venus ? Et je répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau, l'œuvre de la croix. » Tout a été payé, tout a été accompli. Alors, il faut s'y préparer. Et là, je passerai rapidement. Il y a des textes bibliques qui témoignent de cela. « Bien-aimés, vous devez être revêtus de fin lin. » C'était le vêtement des sacrificateurs. Notamment, ils avaient plusieurs couches de vêtements. Et il portait une tunique de lin, de fin lin. Et on l'a lu ensemble, dans l'Apocalypse, au chapitre 19 et au verset 8, il est dit ceci en parlant de l'épouse, « Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur. » Dans l'épître de Paul aux Philippiens, il est dit ceci, « Travaillez à votre salut. » Alors, une version plus littérale, dit, et je la préfère finalement, mettez votre salut en action. Parce que travailler à votre salut, ça sous-entend qu'on est sauvé par les œuvres. Non. Mais mettez votre salut en action. Puisque vous êtes sauvé, servez Dieu et servez-le de tout votre cœur. Et puis, il faut rechercher la sanctification hébreu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi. Je crois qu'on peut mieux faire dans le domaine de la sanctification. On peut mieux faire encore. Tant mieux pour tout ce qu'on a fait, et gloire à Dieu, et alléluia pour cela. Mais faisons davantage encore. Et puis, vous devez courir, ne pas vous arrêter, ne pas regarder en arrière, courir pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ, Philippiens. Le rappelle également, l'apôtre Paul le rappelle aux Philippiens. Et puis, refusez plus que tout que vos vêtements soient souillés. C'est encore dans l'Apocalypse qu'il est dit cela, refuser absolument que ses vêtements soient souillés. Faites attention à cela. Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors dans le ciel, eh bien, on sera bien habillé, bien vêtu. Il y a comme un équilibre parfait, quelqu'un a écrit cela et j'ai trouvé la formule intéressante, il y a un équilibre parfait entre Jésus-Christ et l'Église, l'époux et l'épouse, le mari et la femme, l'époux et l'épouse. Chacun œuvre pour le, et je mets ça entre guillemets, bonheur de l'autre. C'est sûr que Christ œuvre pour notre bonheur. J'ai du mal à imaginer que nous œuvrons pour son bonheur, non, mais pour réjouir son cœur, ça c'est certain, pour réjouir son cœur. Mais il y a interaction, et quelqu'un a dit, Christ aime l'Église malgré ce qu'il voit en elle, tandis que l'Église aime Jésus sans l'avoir vu. C'est un bel équilibre, me semble-t-il, et c'est comme ça que notre relation doit demeurer. J'arrive tranquillement vers ma fin, en vous rappelant que il y a le bonheur d'y être au ciel, et je voudrais tellement que vous y soyez vous aussi. Vous savez, qui dit noce dit repas. Vous aimez manger? Bien manger? Vous aimez le vin? Bon vin? Oui? Vous avez le droit, hein? Il y en aura. Au ciel, il y en aura. C'est Ésaïe qui le dit. Au chapitre 25, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et puis, il continue en disant, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Et je reviens à cette invitation des évangiles. Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Dans le ciel, il y aura du beau monde. Hein. Vous imaginez, juste imaginez, parce qu'on ne sait absolument pas. Mais vous imaginez au ciel, alors moi, qui est-ce que vous aimeriez rencontrer au ciel? Jésus, mais vous le verrez, c'est sûr, avant même d'y être, puisqu'il vient vous chercher. Non, mais parmi les grands personnages de la Bible, Noé, Moïse, voir si sa barbe est bien aussi longue que dans les films, Abraham, Gédéon, Esther, Ruth, bref, Pierre, est-ce qu'il est aussi étrange que le pasteur l'a souvent déclaré? Là, je serais mal. Hein. Dites-moi, il y aura du beau monde là-haut. Hein. Alors bon, je dis cela, mais c'est une parenthèse. On va pas passer son temps à courir après un tel, je veux un autographe, dites-moi où vous êtes, racontez-moi un peu votre vie, qu'est-ce que vous avez vécu. Il n'y a pas grand-chose dans l'Écriture qui me parle de vous, mais j'ai toujours été fasciné par votre histoire. Donnez-moi un peu de temps, ce ne sera pas le temps, mais pour vous dire, vous imaginez les millions de croyants qui nous ont précédés sur la terre, qui ont eu des témoignages extraordinaires. Quel beau monde dans le ciel. Il y aura du beau monde, hein, du peuple d'Israël, de cette nation des croyants à travers tous les âges. Certains, toute leur vie, ont couru avec persévérance, sans jamais obtenir, l'Épître aux Hébreux le dit, ce qu'ils ont vu et salué de loin, mais ils l'attendaient avec foi. Ça donne envie de rencontrer ces gens-là aussi. Et puis, vous avez peut-être perdu des bien-aimés, et vous dites, j'aimerais bien les revoir. On n'a pas de certitude par rapport à ça. Je ne vais pas vous décevoir, hein. Mais on a tendance à dire, quand il y a un décès, vous inquiétez pas, on se retrouvera là-haut, vous le retrouverez là-haut. On sera transformé, corps spirituel, allez savoir. Est-ce qu'il sera utile de se retrouver, de se reconnaître? Ça sous-entendrait un souvenir du passé, la mémoire qui revient. Mais si vous avez la mémoire du passé, vous avez la mémoire des mauvais souvenirs aussi. Est-ce que ça a de la place au ciel? Non. Plus de pleurs, plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance, plus rien. On sera dans une autre dispensation, une autre dimension, entre guillemets. Ce sera autrement, mais ce qui est certain, c'est qu'on se concentre sur ce repas des noces. Moi, j'ai envie d'y être. Je ne suis pas spécialement un gros mangeur, mais j'ai envie d'y être. Ça va être beau quand même. Hein. Ça va être extraordinaire. Vous imaginez tout le monde est rassemblé. D'ailleurs, dans les évangiles, il est parlé des amis de l'époux. Vous s'est posé la question, est-ce que c'est Israël, qui seront ceux-là? Jean-Baptiste se considérait comme un ami de l'époux, non pas l'époux. Alors, est-ce que c'est tous les croyants avant Jésus-Christ? Et donc, mais ils seront là aussi. Ils seront là, les 10 vierges. 5 sages y étaient, les 5 folles auraient dû y être. Ils se sont réveillés un peu tard, sans huile. Prenez garde, bien-aimés. Mais on va y être, on va y être. Ça va être un moment extraordinaire. Il y aura des hommes, des femmes, de Dieu, de tout horizon. L'Apocalypse dit, je voyais une foule nombreuse, impossible à dénombrer, de tout peuple, de toute langue. Et ils chantaient les louanges de Dieu. Et là, ils ont dû le dire bien fort, alléluia. J'imagine que quand les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ont dit, eux seuls à 28, alléluia, ça a dû résonner dans le ciel quand même. Imaginez des centaines de millions de croyants qui vont célébrer la gloire et la bonté de Dieu. On comprend mieux, hein? Pourquoi l'Apocalypse dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Heureux. C'est Jésus-Christ qui présidera le festin. Dans l'évangile de Luc, il est dit ceci, j'arrive vers ma fin, évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 35, il est dit ceci, « Que vos reins soient sains, vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Celui qui présidera à ces noces, c'est Christ lui-même, l'époux bien-aimé. Ce sera lui le chef de cérémonie. Ça va être un moment glorieux, vraiment un moment glorieux. Alors j'espère que vous y serez. Et après ça, eh bien c'est le royaume de Dieu, le royaume du monde qui est remis à notre Seigneur, à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Chapitre 22 de l'Apocalypse, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et un peu plus loin, il est dit, le Seigneur Dieu les éclairera. Ça, c'est notre avenir. Quand vous pensez à Noël, dimanche prochain, samedi prochain, alors que nous célébrons, même si la date n'est pas certaine, le jour précis, mais nous célébrerons la venue de Jésus dans le monde. Vous qui êtes croyants, projetez-vous à ces noces de l'agneau. Parce que ce qu'il y a entre, c'est très très bref, très très court. Et bientôt nous y serons. Bientôt Jésus revient. Je prie Dieu qu'à son arrivée, il vous trouve veillant et priant. Bien sûr, je trouve Dieu qu'à son arrivée, il vous trouve comme il faut pour que, si vous n'êtes pas mort, vous soyez enlevé au ciel. Ça va se faire en un clin d'œil. Vous savez que le muscle le plus rapide du corps humain se trouve dans la paupière. Vous ne saviez pas? C'est là que se trouve le muscle le plus rapide du corps humain. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit en un clin d'œil. Ça va être tellement, tellement subi, tellement bref. Mais voilà, faites partie du voyage. Je vous encourage à cela parce que des noces nous attendent et ce seront les plus belles. Il n'y aura pas de problème de pièces montées, il n'y aura pas de problème de pluie, il y aura pas de non, ce sera parfait, ce sera extraordinaire. Alors, je veux y être et je veux que vous y soyez avec moi, je veux que nous y soyons tous ensemble. Heureux, vous l'êtes si vous avez cette assurance. Heureux, vous l'êtes si vous n'êtes pas inquiet, troublé, dérouté, perturbé par tout ce qui se passe. La volonté de Dieu, c'est de vous accompagner tous les jours jusqu'à la fin, tous les jours jusqu'à la fin. Alors nous sommes l'épouse de Christ et à ce titre-là, pour l'instant fiancée. Et un jour la noce sera célébrée là-haut. Eh bien nous voulons tout faire pour lui être agréable, pour lui plaire, pour l'honorer, pour le servir. Que chaque pensée, chaque seconde, chaque moment serve à le glorifier lui et lui seul. Amen. On se lève ensemble et on invoque Dieu. Alléluia. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu viens bientôt. Et nous voulons dire comme ces êtres de l'Apocalypse, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Ah, nous t'attendons avec impatience, mais nous t'attendons non pas parce que la vie est difficile, nous t'attendons parce que nous avons hâte d'être au ciel avec toi. Et nous avons hâte de partager ces noces de l'agneau. Nous avons hâte d'être à tes côtés. Nous avons hâte de célébrer ta gloire. Nous avons hâte de te servir jour et nuit au siècle des siècles. Et puis nous savons que derrière ce service, il y aura cette partie de règne, parce que nous régnerons avec toi également. Alors s'il te plaît, sauve encore ceux qui ne le sont pas. Amène à la foi ceux qui sont loin de toi. Tu as préparé pour le salut ceux qui sont proches de l'éternité. Merci de te révéler encore. Nous chérissons la croix dans nos cœurs, nous la chérissons. Nous chérissons l'œuvre accomplie, nous bénissons l'Éternel pour le prix payé et nous te rendons grâce pour tant de fidélité. Merci de ce que tu as fait. Merci d'avoir été avec nous à nos côtés ce matin pendant ce temps de culte. Merci de nous avoir permis d'être debout devant toi, d'être là et d'avoir envie d'être là. Merci de ta fidélité. Raccompagne-nous dans ta paix. Bénis le spectacle de tout à l'heure. Bénis tout ce qui se passera tout au long de cette journée afin qu'il y ait de la joie dans le ciel. Parce que c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous célébrons. Merci de ta fidélité. Tu auras béni nos bien-aimés qui n'étaient pas là, tu les auras bénis, tu les auras accompagnés, tu les auras fortifiés, tu les auras encouragés encore. Et je te bénis pour cela. À toi l'honneur et la gloire. Ce que nous te disons en espoir, en espérance, par la foi, nous sommes vraiment dans l'impatience, trépignons d'impatience de te le dire face à face. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Amen.